la guerre avec le Japon n'était pas encore terminée, qu'elle fut éclipsée par des événements imprévus. Toutes plus hautes et plus inouïes les unes que les autres, les vagues d'une révolution déferlaient sur la Russie. C'est à ce moment que, venant de l'Oural, arrivèrent à Moscou la veuve d'un ingénieur belge, elle-même française russifiée, et ses deux enfants, Rodion et Larissa. Amalia Karlovna Guichard fit admettre le garçon au corps des cadets et mit la fille au lycée de jeunes filles, celui-là même où, dans la même classe, étudiait Nadia Kologrivova. Madame Guichard avait hérité de son mari un portefeuille d'actions dont la valeur, après avoir grimpé, commençait à baisser. Pour enrayer la fonte de ses avoirs et ne pas rester sans rien faire, Madame Guichard avait acheté une petite affaire, l'atelier de confection Levitskaya, à proximité des portes triomphales. Les héritiers les lui avaient cédés avec la raison sociale de la firme, sa clientèle, et toutes les ouvrières, modistes et apprenties. Madame Guichard s'était fait conseiller par un avocat sur lequel elle s'appuyait, Victor Komarovski, un ami de son défunt mari. C'était un agent d'affaires sans état d'âme, pour qui le paysage commercial russe n'avait pas de secret. Elle s'était arrangée avec lui pour le déménagement, il était venu les chercher à la gare, les avait conduits à travers tout Moscou et installés dans une chambre d'un meublé, le Monténégro, rue de l'Arsenal. C'est lui aussi qui avait conseillé à Amalia Karlovna de mettre Rodion chez les cadets et recommandé un lycée pour Lara. Il plaisantait négligemment avec le jeune garçon et regardait la fillette d'une façon qui la faisait rougir. Chapitre 2. Avant de s'installer dans le petit appartement de trois pièces attenant à l'atelier, ils passèrent près d'un mois au Monténégro. C'étaient les bas-fonds de Moscou, fiacres et bouges, rues entières livrées à la débauche, repères de perdition. Rien ici n'étonnait les enfants. La saleté, les punaises, la pauvreté du mobilier. Après la mort du père, leur mère avait vécu dans une peur perpétuelle de tomber dans la misère. On avait toujours répété à Rodia et Lara qu'ils étaient au bord du désastre. Ils savaient bien qu'ils n'étaient pas des enfants des rues, mais ils étaient profondément effarouchés par les riches, comme des orphelins. Leur mère était un exemple vivant de cette crainte. Amalia était une blonde, bien en chair, de quelque 35 ans, qui alternait les crises nerveuses et les accès de bêtise. C'était une terrible froussarde qui avait des hommes une peur bleue. Et voilà pourquoi, à force de pusillanimité et d'égarement, elle ne cessait de passer de bras en bras. Ils occupaient au Monténégro la chambre 23. La 24 était habitée depuis la création de l'établissement par le violoncelliste Tishkevitch, un brave type, suant et chauve, qui portait une perruque et qui, quand il voulait convaincre quelqu'un, tenait les mains pieusement croisées sur sa poitrine. Quand il jouait en société ou en concert, il rejetait la tête en arrière, en levant au ciel des yeux inspirés. Il n'était pas souvent chez lui et passait des journées entières au grand théâtre ou au conservatoire. On fit connaissance entre voisins, se rendant mutuellement des services. Comme la présence des enfants gênait quelquefois Amalia Karlovna quand Komarovski passait la voir, Tishkevitch avait pris l'habitude de lui laisser sa clé en sortant pour qu'elle puisse recevoir son amie. Madame Guichard finit par se reposer tellement sur l'altruisme de son voisin qu'elle vint plusieurs fois frapper à sa porte, tout en larmes, le suppliant de la protéger de Komarovski.